troisième jeudi du mois, aujourd'hui, nous sommes le 21 février, Histoire d'archives, c'est sur Fréquence Mistral d'Digne-les-Bains. Bonjour Laure Franek, bonjour Laure.
Bonjour Jean-Marc.
Et vous êtes accompagné de Louis. Présentez un peu ce jeune homme.
Alors Louis est un stagiaire aux archives départementales pendant une semaine pour découvrir les métiers des archives. Il est étudiant en deuxième année d'histoire à l'Université d'Avignon, mais c'est un jeune basalpin.
Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors Laure, aujourd'hui, une mission un peu spéciale. Vous allez fêter, nous fêtons les 80 ans, entre guillemets, d'un événement majeur pour l'histoire de France.
Oui, la retirada que beaucoup de gens connaissent pour ce grand mouvement de population qu'il y a eu, notamment au niveau des Pyrénées. Mais en fait, il y a eu aussi la retirada dans un impact dans les basalpes. Alors, je vais peut-être expliquer un peu vite fait ce qu'est la retirada. La retirada, c'est la retraite des, en réalité, des armées républicaines espagnoles, qui évidemment sont en défaite. Donc dès 36, en fait, les armées républicaines espagnoles sont déjà en but à la c'est difficile pour moi ce matin. On va démarrer. Donc, dès 36, en fait, il y a un reflux d'Espagnols vers la France. Mais en 39, d'où les 80 ans que nous commémorons en ce mois de février, c'est vraiment un très large afflux de population espagnole en majorité républicaine qui arrive, alors, beaucoup au niveau de la frontière avec les Pyrénées. Mais il faut savoir qu'à Digne-les-Bains, à Digne à l'époque, le 2 février 1939, il y a 2200 ou 2400 Espagnols qui arrivent, ce qui est l'équivalent de la ville de Forcalquier à l'époque. Hein, donc c'est vraiment énorme. Voilà. Donc ce qui est intéressant, pourquoi j'en parle ? Alors, j'en parle à différents titres. Déjà parce que ça fait les 80 ans de cet événement. Ensuite, évidemment, ça a un écho particulier aujourd'hui parce qu'on en a déjà eu l'occasion d'en parler. Les migrations et notamment le phénomène des réfugiés est toujours d'actualité. Et que là, la France, à cette époque, a dû faire face à vraiment un afflux de personnes très important qu'il a fallu gérer tant bien que mal. Aussi voir comment finalement ces populations ont été reçues de manière très diverse selon le moment et le lieu où elles arrivaient. C'est-à-dire que les premiers réfugiés qui ont commencé à arriver sur le territoire français dès 1936, les Français étaient quand même méfiants, enfin, notamment les autorités, parce qu'évidemment ils étaient soupçonnés d'être des anarchistes. Donc il y avait cette crainte d'activisme politique. Donc la France était méfiante vis-à-vis de ces populations. En 1939, quand vraiment février, hein, donc c'est avant l'entrée en guerre, évidemment, avant le démarrage de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu arriver ces gens qui étaient pour la plupart beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de vieillards. Donc il y a eu vraiment une véritable empathie, un mouvement de solidarité pour ces populations. Donc ces populations ont plutôt été bien accueillies. D'ailleurs, on avait déjà eu l'occasion d'en parler quand M. Claude Patrick était venu nous faire cette conférence sur la retirada. Nous avons eu une témoin, en fait, une femme qui était arrivée adolescente en France et qui a témoigné, qui a tenu à dire que vraiment ils avaient été extrêmement bien accueillis par les Français. Mais février 39, quelques mois après, c'est la guerre. Et là, d'un seul coup, ces étrangers deviennent ce qu'on appelle des indésirables. Et donc certains seront soit internés en raison de leur activisme politique, soit intégrés dans ce qu'on a appelé après des groupes de travailleurs étrangers. Parce qu'en fait, on se méfie d'eux. On se méfie d'eux et les Espagnols, mais bien d'autres, seront gênés. C'est un problème technique. Voilà pour un peu dresser le tableau général. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on connaît bien l'arrivée des Espagnols au niveau des Pyrénées. Hein, il y a des camps très, très célèbres. Mais dans les Basalpes, en tout cas, ça a été une découverte de savoir que les Basalpes avaient aussi accueilli des Espagnols en 1939. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, vous dire que, évidemment, ce sont des volontaires qui ont pris en charge ces familles en arrivant, donc des dames de la Croix-Rouge, des médecins, du personnel de la préfecture. Et en fait, dans un premier temps, parce qu'ils arrivent à la gare, hein, ils arrivent évidemment par train, dans un premier temps, ils sont hébergés en fait, ils restent dans les wagons et ils sont nourris au buffet de la gare. Donc c'est vraiment très, très sommaire hein, comme accueil. Après, on va mettre à leur disposition des classes pour qu'ils puissent un petit peu s'installer. J'ai oublié de le dire, mais aussi le sujet de la retirada a été du coup pour nous le prétexte pour faire ce que nous appelons des archiclasses. Et j'en reparlerai parce que ces archiclasses, il y en a beaucoup qui sont mis à disposition sur notre site internet en téléchargement gratuit. Et alors ce sont des documents que l'on destine aux enseignants, mais qu'on essaye vraiment d'être bien illustrés au niveau iconographie, au niveau documents d'archives, pour qu'ensuite les enseignants puissent les travailler avec leurs élèves. Donc là, justement, cette archiclasse sur la retirada qui va être prochainement mise à disposition des enseignants, nous avons pu obtenir une série de photographies, certainement prises par un journaliste qui a photographié donc ces arrivées de migrants à la gare de Digne-les-Bains, donc juste à côté d'ici. Donc on voit vraiment ces gens qui sont avec leurs baluchons, qui n'ont en général que un petit sac de toile avec quelques vêtements, très peu de choses. Donc ça, ces photos sont reproduites dans l'archiclasse. Par exemple, juste pour vous donner un petit peu un exemple, donc ils sont servis, les repas sont servis au buffet de la gare, et donc par exemple dans notre petit fonds d'archives concernant ce sujet, nous avons la facture des repas servis aux réfugiés espagnols, donc 6 février 1939. Donc le 2 février à midi, il y a 1300 repas froids qui ont été servis avec du lait et boissons comprises. Le soir, 1400 repas chauds, cette fois avec du lait encore. Le 3 février, 1400 petits déjeuners, 1400 repas chauds. Et le soir, 400 repas chauds. Alors pourquoi moins? Alors, il faut savoir qu'après, j'en parlerai, ils vont être répartis un peu dans tout le département. Le 4 février, beaucoup moins de petits déjeuners, seulement 400. Et puis, on est passé à 60 repas chauds le midi, 60 repas chauds le soir. Voilà, tout ça a coûté 24 165 francs. Et donc, c'est la facture des repas. Donc, allez-y.
Pour venir jusqu'à Digne, il y a d'autres étapes où il y a plus ou moins de personnes qui se sont arrêtées. Enfin, et c'est pour le quota. Enfin,
oui,
le
quota, oui,
le
oui.
Nombre de, en fait, c'est par rapport à la population.
Et ce qu'on sait, c'est que la préfecture a été prévenue la veille que ces réfugiés arrivaient. Hein. Donc, il y a eu. Alors, je pense qu'effectivement, au fur et à mesure, il y a eu des familles qui ont dû descendre. Et vous allez voir après, ces familles vont être réparties un peu partout dans le département. Hein. Donc, mais tout ça, c'est quand même très improvisé. Et finalement, ça s'est pas si mal passé compte tenu de cette improvisation et puis du nombre de personnes. Hein. Enfin, je reviens aux chiffres. Hein, donc, je ne sais plus où je l'ai mis, mais c'est l'équivalent de la ville de Fort-Calquier. On est dans un département très rural et très faiblement peuplé en 39. Donc, c'est énorme comme masse de population qui arrive. Donc, alors, en fait, la commune qui va le plus accueillir les Espagnols dans le département, c'est Sisteron. Parce qu'il y a tout ça repose sur du volontariat. Il y a quelqu'un qui a un lieu où il y a une colonie, à Castelbevon exactement, et qui spontanément va mettre à disposition ce lieu-là pour accueillir. Il y aura près de 400 familles hein, qui vont être hébergées à Sisteron. Donc c'est vraiment la commune qui va accueillir le plus de réfugiés. Après, il y a un mouvement naturel, j'allais dire, d'entraide, des gens qui donnent de l'argent, qui proposent des vies. Enfin, exactement ce qu'on vit aujourd'hui avec les réfugiés actuels. Hein. On retrouve les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Plus amusant, les journaux vont publier un glossaire pour favoriser les conversations entre espagnols et français. Alors ça, c'était assez amusant parce que j'ai regardé un petit peu hier soir les mots retenus. Alors, je ne le dis pas en espagnol parce que je ne suis pas hispanisante, mais voilà le petit glossaire pour faciliter les conversations avec les réfugiés espagnols. C'était publié dans le Petit Provençal le 11 février 1939. Alors, pourquoi pleures-tu? As-tu mal? As-tu froid? As-tu faim? As-tu soif? As-tu chaud? As-tu sommeil? Qu'est-ce que tu veux? Viens ici, reste tranquille. Ne bouge pas, ne sors pas, tais-toi, va te coucher, lève-toi, on t'aime bien, ne pleure pas mon petit, il faut être sage, va te laver les mains, comment t'appelles-tu? Tes parents vont bien, ton frère va bien, ta sœur va bien, tes parents ne vont pas tarder, tu vas rentrer bientôt, n'aie pas peur, il faut dormir, il ne faut pas traverser la rue, fais attention aux voitures, fais attention aux chiens, ne te salis pas, tu aimes ça, et ça termine par chéri. Donc on voit que c'est un glossaire qui est quand même plus spécifiquement destiné à communiquer avec des enfants, mais voilà, bon, c'est quand même assez remarquable que finalement le petit Provençal ait décidé. Donc ça a été publié le 11 février.
Vous disiez qu'il y avait des Espagnols qui étaient allés dans une colonie près de Sisteron. Dans des familles, il y a beaucoup de personnes qui ont été accueillies.
Alors, là, on n'a pas forcément le détail. Hein. En réalité, on sait juste la répartition le convoi. Là, il y a deux convois. Il y en a un le 1er février, il y en a un le 10 février. On ne sait pas forcément où ces gens vont. Est-ce qu'ils vont dans des salles de classe, dans des hébergements de fortune? Est-ce qu'ils sont accueillis chez des gens? On ne sait pas. Le premier convoi, par exemple, celui du 1er février, on sait que les centres, il y en a au Mai, Oraison, Colmar, Manosque, Seine, donc à Castelbevon. Il y en a à la Papeterie, à la Ferme au Castel, Puymoisson, Castellane, Saint-Tulle, Cruy, Saint-André, Riez, Gréoux, Valensol, Mézel, Quinçon, Barème, Villemu, La Clappe, Chaudon. Et à Digne, il y a le Sacré-Cœur à la Sympathie et il y a marqué chez des particuliers. Donc là, c'est spécifiquement précisé et à l'hôpital. Donc moi, je pense plutôt, sous réserve que les archives nous en disent plus, que les lieux d'hébergement sont des lieux publics, c'est-à-dire des classes, voilà, des choses comme ça. Puisque quand ce sont des particuliers, c'est spécifiquement précisé. Dans le convoi du 10 février, là, c'est Banon, Hubail, Le Lozier, Josier, Faucon, Saint-Même, Cérès, Rayanne, Villeneuve, Saint-Étienne, Manne, Pierre-Rue, Revesse-du-Bion, Sisteron encore, qui va encore accueillir 40 adultes, Château Arnoux, Châteauneuf, Valdonna, Lescale, La Motte, Clamensanne, Aubignosque, Anotte, Entrevaux et Montlo. Voilà, mais à chaque fois, ça voilà, c'est entre des groupes de 10 à 50 adultes et entre 5 et 20 enfants. Hein. Sauf à Villeneuve, en fait, ils se sont trompés, c'est 11 ans. Voilà, on les répartit par tout petit groupe. Sachant que ce sont des populations qui ne sont pas forcément restées. D'ailleurs, très peu sont restées en réalité. Il y en a beaucoup qui sont repartis assez rapidement en Espagne. Hein. Ça m'a surpris d'ailleurs quand cette personne est venue témoigner aux archives il y a quelques mois, parce que elle a traversé deux fois la frontière. En fait, deux fois dans les deux sens. Hein. Donc, en fait, il y avait des allers et retours. Je pense qu'ils espéraient toujours que la situation s'améliore et puis ils laissaient quand même de la famille derrière eux. Donc, ils avaient envie de retrouver leur famille. Donc, il y a eu des allers-retours. Ils ne sont pas arrivés là pour ne plus jamais en repartir, même si quelques personnes sont restées. Donc, oui.
Là, pour franchir la frontière, ils ont franchi à pied, je suppose. Oui. Pour venir ici, il y avait en train, en camion.
A priori, c'est essentiellement en train, mais bon, franchement, vous savez, il y a des tas de choses qu'on ignore, hein, tant que c'est pas bien bien documenté. Voilà, nous, on a vraiment travaillé uniquement sur ce qui était disponible dans les fonds liés à la préfecture des Basses-Alpes. Voilà, a priori, c'est en train, puisqu'ils sont arrivés à la gare de Digne. Voilà, et beaucoup sont arrivés à pied. Claude Patrick disait que ça a été moins vrai ici parce que les groupes étaient moins importants, mais dans les Pyrénées, les gens disaient qu'il y a eu des jours où vous avez l'impression que la montagne ruisselait d'hommes et de femmes qui descendaient. Vraiment, il y a eu ça paraît un peu exagéré comme image, mais je pense que vraiment, il y a eu un phénomène massif d'arrivée de ces gens poussés par la guerre. Hein, oui. Par la guerre et puis le fait qu'ils n'étaient pas du bon côté, hein, parce qu'ils étaient républicains et qu'ils n'étaient pas du bon côté de la barrière. Républicains, voire anarchiste. Hein. Donc là, on va retrouver justement cette espèce de méfiance vis-à-vis de ces populations. On va en reparler après parce que c'est surtout ce qui va leur arriver à la fin. Là, justement, pour reparler de Sisteron, dans le petit Provençal du 9 février, voilà, où il y a un article et des photos, alors c'est beaucoup d'enfants, hein. Un convoi de 480 réfugiés espagnols composés de femmes, enfants et vieillards est hébergé dans les locaux de la colonie de vacances de Castelbevon, mis spontanément à la disposition des autorités par son propriétaire, Monsieur Édouard Régnier, le généreux philanthrope. Voici un groupe d'enfants dont plusieurs sont orphelins. Ce qui explique pourquoi le glossaire aussi était beaucoup orienté vis-à-vis d'une communication avec des enfants, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants. Oui, Bouillé, voilà. Après, donc, il y a eu cet accueil, j'allais dire, spontané, parce qu'il a fallu faire face à à cet accueil. Après, progressivement, les choses se sont un petit peu mises en place, et notamment, il y a eu un comité départemental de soutien qui s'est mis en place pour structurer les dons, voilà. Vraiment, on retrouve, bon, c'est un petit peu normal, hein, on retrouve exactement les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Là, voilà, alors ça, c'est des petits extraits de journaux qui sont mis à disposition là, dans l'archiclasse. Par exemple, le petit Provençal du 25 février met un petit encart qui s'appelle « Générosité ». Nous signalons volontiers le joli geste de notre bon concitoyen, M. Aude Léon, propriétaire à Sainte-Tulle, qui a offert un beau mouton bien gras à partager entre les réfugiés espagnols de Sainte-Tulle et de Corbière pour qu'ils puissent fêter le Mardi Gras. Cette offrande, succédant à des versements en espèces, atteste la générosité d'un modeste travailleur, père de famille, que nous félicitons. Voilà, donc c'est quand même... Il y a de tout, hein, là, vous voyez, à monsieur et madame Pélestor, qui ont l'Eldorado au cinéma, donc à Digne, ont bien voulu donner une séance cinématographique gratuite à nos malheureux réfugiés. Donc là, on est en février 39, il y a vraiment beaucoup d'empathie, il n'y a pas du tout de méfiance. Autant il y en avait eu 36, même si ici on n'a pas vu de réfugiés en fait en 36, hein, mais au niveau national, il y a une méfiance vis-à-vis de ces activistes, supposés activistes politiques. Là, on voit que ce sont des femmes, des enfants, des vieillards, des êtres malheureux qu'il faut secourir. Et d'ailleurs, c'est le 11 février 1939. La municipalité de Digne tient à publier dans la presse des remerciements. Donc, ça indique bien l'état d'esprit. Le 2 février dernier, nous avons dû vous demander d'aider la municipalité dans la lourde tâche qui lui incombait, héberger sans délai 1800 réfugiés espagnols. Nous savions que nous pouvions avoir confiance en votre bonté, votre dévouement, auquel on ne fait jamais appel en vain. Par des sentiments innés d'humanité et de solidarité qui l'honorent, la population dignoise a manifesté à nouveau ses belles qualités morales. De tout cœur, qu'elle en soit profondément remerciée. Il y a une faute d'ailleurs, mais bon. Vous avez vu ces femmes et ces enfants vieillis par un destin qui dépasse leurs forces, porter leur bagage misérable, une couverture, quelques objets familiers. Notre tâche n'est donc pas terminée. Un comité d'accueil est en formation. Il sera chargé de recevoir tous les dons en argent et en nature qui permettront de vêtir chaudement cette cohue misérable de gosses, plus maigres les uns que les autres, et dont quelques-uns, hélas, ne verront peut-être plus leur patrie. Conservez dans vos mémoires l'image du regard de ces enfants, où se lisait à la fois la terreur et l'espoir d'avoir enfin trouvé la France généreuse. Leur cauchemar a pris fin. Devant cette détresse, nul ne peut rester indifférent. La municipalité de Digne. Voilà, c'est quand même un très beau texte. Voilà. Mais malheureusement, j'allais dire, l'idylle ne va pas durer parce qu'il va y avoir la guerre. En fait, la guerre qui va changer complètement la donne. Alors, il y a évidemment la presse de droite qui n'a pas forcément le même sentiment vis-à-vis de ces populations. Hein. Par exemple, dans l'Éclaireur de Nice et du Sud-Est, donc il se présente comme un journal républicain quotidien. Là, la compassion est quand même assez vite oubliée. Et on exprime la crainte de voir des maladies se propager. Est-ce qu'ils ne sont pas trop dans une France où il y a du chômage? Et d'ailleurs, le Conseil général des Basses-Alpes, autant la mairie de Digne, là, elle se pose en défenseur de la veuve et de l'orphelin. Le Conseil général des Basses-Alpes, en fait, fait paraître un... Enfin, se réunit et les propos au cours de la commission sont relayés dans la presse. Et là, on est le 13 mai 39, hein, donc on est quand même plusieurs mois après leur arrivée. On voit que le sentiment à l'égard de ces populations est en train d'évoluer. Au sujet des réfugiés espagnols, le Conseil général considérant, deux points, que le séjour des réfugiés espagnols sur le territoire français dure depuis 3 mois et paraît se prolonger. Alors, c'est ça, en fait, qui fait tiquer tout le monde, c'est que ça dure un petit peu trop. Considérant, je continue à citer, que dans le département des Basses-Alpes, la population des villes et villages où a eu lieu l'hébergement, ont, dans un sentiment d'humaine et généreuse pitié, fait tout leur devoir envers ces victimes de la tragédie espagnole, mais... que ces populations sont lasses de supporter plus longtemps le contact de gens inoccupés, nourris aux frais de l'État, alors que la plupart d'entre elles sont astreintes aux durs travaux des champs. considérant que certains réfugiés, au mépris de la plus élémentaire convenance envers le pays qui leur donne si généreusement l'hospitalité, ont une attitude déplorable, s'occupent de politique et entretiennent des conciliabules avec des groupements politiques, considérant d'autre part que le département des Basses-Alpes, département frontière, peut être appelé, malheureusement, à recevoir d'autres réfugiés, et cela français, considérant que certaines communes ont dû utiliser pour pouvoir à l'hébergement des locaux qui leur sont nécessaires pour la marche des affaires municipales, et que de ce fait, elles en éprouvent de la gêne. Donc le Conseil général émet le vœu que le gouvernement envisage d'urgence le rapatriement des réfugiés espagnols. Donc là aussi, c'est un discours qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et bon voilà, c'est sûr qu'il faut... C'est des sujets difficiles à prendre en considération. Vous voulez dire quelque chose ?
Non, vous voulez faire une pause ?
Oui, je veux bien.
Vous êtes venu avec un petit peu de musique.
Un petit peu de musique, les Buzzcocks, voilà.
Et comment pourriez-vous traduire « What do I get » ?
Alors, on a cherché ensemble, je vous rappelle. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? Qu'est-ce que je peux attendre ? Voilà, c'est une demande. What do I get? Oh, what do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress. What do I get? Numb and make, I just need a break. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone in my haunted bed. We are just in the town I tried. So I wish that I would have to do it instead. What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get?
Fréquence Mistral, ma radio, mon pays.
Eh bien, à nouveau bonjour. Donc, on va continuer avec les réfugiés espagnols en 1939. Donc, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure que le sentiment vis-à-vis de ces populations va évoluer. Et évidemment, ce qui va le plus modifier, alors outre le fait que certains trouvent qu'ils commencent à rester un peu trop longtemps dans le pays et que ça pèse trop sur les populations, c'est surtout évidemment l'entrée en guerre de la France qui va modifier la donne. Et donc, il y a des structures d'encadrement militarisées qui vont être organisées pour encadrer ces populations, qui seront donc affectées à des tâches qui relèvent de la défense nationale au début. Et puis en 1940, en mai 40, ces unités vont être transformées en ce qu'on appelle des compagnies de travailleurs étrangers. Et après l'armistice, il y a une nouvelle loi sur les travailleurs en surnom dans l'économie nationale. Et les compagnies de travailleurs étrangers sont remplacées par des groupements de travailleurs étrangers. Alors, ces groupements de travailleurs étrangers, il n'y a pas que des Espagnols. Hein. On a quelques listes qui montrent qu'il y a vraiment des étrangers qui viennent du monde entier, qui sont rassemblés dans ces groupements de travailleurs et qui servent de main-d'œuvre, en fait, qui remplacent en réalité en partie la main-d'œuvre française qui est partie sur le front. Hein. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a aussi des camps où il y a des familles hein, qui sont internées parce qu'elles sont étrangers. Et il y a aussi des centres de séjour surveillés c'est pas seulement quand on est étranger, c'est aussi quand on est soupçonné d'un activisme politique. Ouais.
Comme quoi, il n'y a pas hors frontières que hors des frontières que cela se passait.
C'est-à-dire,
pour les camps.
Ah oui, non, mais alors c'est pas. Attention, hein, quand on dit camp parce que c'est un. Ça,
oui,
ça
oui, mais
rassemble
on les internait.
On les internait, mais c'est pas des camps d'extermination. Hein, non, faut faire attention.
Non, d'internement.
D'internement, tout à fait, bien sûr. Après, les conditions étaient. Selon les endroits, non, c'est toujours des conditions très, très rudimentaires. Mais, c'était nourri. Enfin, voilà. Le camp dont j'avais déjà parlé pour Anot, les familles pouvaient sortir. Hein, c'était pas enfermé 24 heures. Sur 24, voilà. Donc il y a des conditions quand même très différentes selon le type de population accueillie. Après, le réel problème, c'est que c'était simplement parce que vous étiez étranger ou d'origine étrangère que vous étiez soupçonné que vous étiez ce qu'on appelait un indésirable. On utilisait vraiment ce terme, hein, un indésirable. Les États-Unis ont connu exactement la même chose avec des camps d'internement pour les Japonais notamment, hein, qui sont tristement célèbres. Donc voilà, c'est ça qui est scandaleux en fait. C'est l'idée que, en fait, on oublie complètement depuis combien de temps vous êtes en France. Certains étaient là depuis longtemps, hein, que parfois même vous aviez fait souche, vous aviez travaillé. On oublie totalement ça. C'est simplement le fait que vous soyez d'origine étrangère, a fortiori, évidemment, de la nationalité ou d'origine de notre ennemi, l'allemand, que là, vous êtes soupçonné d'intelligence avec l'ennemi. Donc, c'est vrai que pour certaines personnes, ça a dû être une violence extrême. Hein. Rien que dans les bases Alpes, il y a 17 groupes de travailleurs étrangers qui sont créés. Donc, il y en a certains dans la vallée de l'Ubaye. Il y en a... Alors, affectés à des travaux agricoles, évidemment l'usine chimique de Saint-Auban, ça tout le monde sait qu'il y a des travailleurs étrangers qui ont travaillé là-bas, dans les mines de charbon à Sigons aussi, à l'endiguement de la Durance et à la construction de la route de Ganagobie. Voilà, on doit ça au groupe de travailleurs étrangers. Alors, il y a des rapports, hein, disciplinaires qui sont faits sur ces groupements de travailleurs étrangers. En général, on estime qu'ils se tiennent plutôt bien. Après, il faut savoir que s'il y avait des problèmes, on les envoyait dans des groupes disciplinaires qui devaient être nettement moins sympathiques. Donc, il y avait quand même une pression sur eux. Hein. C'était pas, évidemment, ils n'étaient pas forcément là toujours de leur bon gré. Donc, il fallait les maintenir et ça se faisait dans la coercition. Ce que je voulais vous dire, c'est on a des listes en fait de ces étrangers. Alors ça s'appelle liste des étrangers en résidence dans le département susceptibles d'être incorporés dans un groupe de travailleurs étrangers. Donc ça c'est une liste qui date de 1943. Et alors ça c'est intéressant parce que on a leur nom évidemment et on a leur nationalité. Où est-ce qu'ils étaient domiciliés et leur profession. Et là, vraiment, on voit qu'il y a des gens absolument de partout, des Autrichiens, des Roumains, des Hongrois, des Finlandais, des Polonais, des Espagnols, puisque c'est notre sujet, des Allemands, des Russes, des Grecs, des Égyptiens. On a... alors ça, c'est dans cette liste-là, hein, mais ailleurs, on a des Asiatiques. Voilà, il y a vraiment... Yougoslave, je lis en même temps. Hein. Après, les métiers, c'est beaucoup... ça reflète en fait la réalité économique de l'époque, qui était aussi celle de la France. C'est beaucoup des agriculteurs, des artisans. Hein, donc on a bûcherons, manœuvres, boulangers, cultivateurs. Voilà, c'est des gens... alors on a un étudiant, on a quelques garçons de café ou sans profession, mais voilà, la plupart ont des métiers vraiment manuels. Et donc, si leur profession est listée, c'est qu'après, évidemment, on se sert de ça pour les affecter à telle ou telle tâche en fonction de leur qualification. Voilà, et donc, bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais tchécoslovaque, je ne l'ai pas dit encore, et turc, voilà, bulgare, voilà, donc pays de l'Est, un peu de pays nordiques.
Et au niveau intégration, toutes ces personnes, après, ont eu des descendants ?
Ben alors ça, c'est pas facile à pister, en fait. On le sait de manière assez ponctuelle, mais c'est pas facile du tout à pister, parce qu'ils sont pas forcément restés dans les Basses-Alpes. Certains sont repartis chez eux. On en a parlé pour les Espagnols. Hein. Tous les Espagnols qui sont arrivés en 39 ne sont pas restés en France. Hein. Donc c'est pas évident. On sait, hein, dans le département, il y a quelques descendants, notamment de familles indochinoises. Voilà, mais c'est... je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu l'occasion de faire une émission sur les étrangers pendant la guerre, où justement on a quelques cas, notamment d'étrangers qui se marient avec des Françaises, ce qui est très compliqué parce que du coup la Française perd sa nationalité. Enfin voilà, il y a vraiment eu des soucis compliqués. Donc là, on arrive à pister.
Ça, c'était pendant la Première Guerre.
Première Guerre mondiale, tout à fait. Mais je veux dire, on retrouve la même difficulté après pour pister en fait ces familles, hein, hormis éventuellement par le nom de famille qui serait resté, sachant que des fois les noms de famille sont modifiés. Enfin, c'est pas toujours simple. Hein, c'est pas toujours simple. Après, moi, je connais quelques personnes dans le département qui ont des ascendants liés à, mais des fois qui remontent, comme vous dites, à la Première Guerre. Hein, voilà. C'est pas évident. Bon, après, ils étaient quand même... Enfin, je me mets à la place de ces gens-là qui étaient dans ces groupes de travailleurs étrangers. Je ne sais pas s'ils avaient forcément envie de rester une fois qu'ils ont été libérés, parce qu'il a fallu, à la fin de la guerre, que le gouvernement décide de leur libération, hein, de ces groupements de travail. Et voilà, donc je suppose que, de toute façon, c'était déjà des gens totalement déracinés. Donc ça ne devait pas... ça devait être tout à fait dans leur... capacité morale de pouvoir partir encore une fois pour se réinventer un avenir ailleurs. Hein. Voilà, donc c'est... Oui, vous voulez dire quelque chose ? Non. Voilà. Donc tout ça pour revenir à nos Espagnols, hein, puisque c'était le point de départ de la l'émission de ce matin. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis fatiguée ce matin. Excusez les auditeurs. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que c'est un sujet pour les Basses-Alpes qui était quand même pas connu. C'est quelque chose. C'est assez frappant parce que dans la presse, on en a beaucoup parlé quand même à l'époque. Puis on a oublié. On a oublié. Et aujourd'hui, à nouveau, nous avons des réfugiés et ça soulève exactement les mêmes questions, en fait.
Par essence, un migrant migre. Comme vous disiez, il migre quelque part, mais il peut bouger.
Ah quoi. Je veux dire, c'est le propre de ces mouvements de population, hein, qui, je le rappelle, sont très anciens et malheureusement risquent de se reproduire dans le futur. C'est quelqu'un, évidemment, ne décide pas un jour de venir s'installer à Digne. Vous voyez,
comme il y en a beaucoup qui s'insurgent, ils s'insurgent un jour, mais ils s'insurgent contre des personnes qui bougent. Quoi, hein,
tout à fait. Ça, c'est le problème des frontières aussi. Hein, nous sommes dans un monde avec des frontières et l'humain, en fonction des aléas de la vie, ignore ses frontières. Voilà. Et ça, il faut jamais l'oublier. Alors après, c'est sûr que ça a un impact, c'est difficile à gérer. Je ne minimise pas du tout ces aspects-là, mais c'est toujours très étonnant de constater ces hoquets de l'histoire, là, ces répétitions. Et finalement, les solutions qui ont été trouvées à un moment donné et les...
du verbe hoqueter. Hein.
Non, du verbe hoqueter, oui. Pas occulter, ok, vraiment, avec un H. C'est de voir ces répétitions et puis que ces constats qu'on a pu faire à un moment donné, on les oublie aussi. Et voilà, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire de l'histoire. Hein. C'est de toujours replacer dans le contexte, de relativiser, de se dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, eh bien, souvent, c'est déjà arrivé, qu'on a trouvé des solutions ou pas, mais ça devrait pouvoir nous faire réfléchir et nous aider à mieux comprendre les choses et peut-être à prendre de meilleures décisions.
Et un jour, on peut être migrant soi-même.
Mais quand on fait un peu de généalogie, on constate que dans beaucoup de familles, quand même, il y a eu des migrations. Alors, pas forcément extra-nationales, mais au moins infra-nationales. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une famille...
Déjà entre vallées. Hein.
Déjà entre vallées, exactement. Entre vallées, entre régions françaises. Je veux dire, derrière ça, il y a deux grandes raisons. Hein. Il y a l'économie et la guerre. Hein. Les deux étant souvent liés. Donc, ces pressions économiques et puis ces atteintes à la sécurité font que les familles ou les individus sont amenés à aller sur les chemins. Voilà, c'est la triste condition de l'homme. Ou peut-être que c'est aussi une force, hein, parce que finalement, si les humains étaient toujours restés sur leur lieu de naissance, je ne donnerais pas cher de... Déjà de l'état du patrimoine génétique et puis même simplement de nos conditions de vie, de notre faculté à échanger avec l'autre. Voilà, donc faut toujours voir les choses positivement aussi. Hein,
Et on voit la consanguinité quelquefois dans quelques villages.
Ben oui, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Voilà. Donc voilà un beau sujet. Et donc je rappelle, hein, nous avons un service éducatif aux archives départementales qui produit des petits dossiers documentaires contextualisés à l'usage des enseignants et des étudiants, mais qui sont franchement intéressants pour quiconque s'intéresse à tel ou tel sujet. Tout ça est accessible pour la plupart en ligne, en téléchargement. Ça permet de voir un peu ce qu'on peut trouver dans nos fonds d'archives, parce que c'est vrai que les gens se demandent toujours qu'est-ce qu'on peut trouver dans nos 11 km d'archives dans le dépôt de Digne-les-Bains. Et bien voilà, c'est des documents par exemple qui émanent de la préfecture, qui dressent des listes et qui permettent de retracer un peu l'histoire du département. Et donc ça a évidemment une vocation pédagogique, c'est ce qu'on appelle des archiclasses, hein, ces documents à destination des enseignants. Mais comme on reproduit des documents d'archives, ça peut vraiment intéresser tout le monde.
Et le site, c'est www.archives04.
Exactement, archives au pluriel 04. Voilà, donc pour terminer, peut-être parler un peu de notre actualité. Puisque
le 8 mars arrive.
Voilà, le 8 mars arrive, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et nous accueillons quatre. Alors, il y a une comédienne et trois personnes qui travaillent en fait dans le milieu de la culture, qui vont nous lire des extraits d'archives. Donc, c'est Claude Fauss, Fabienne Galis, Nathanaël Coriol et Anne van Koverberge qui vont nous. Alors, je lis le petit texte qu'elle nous avait transmis parce qu'il était assez joli. Sorcière, empoisonneuse, rosière ou poétesse, quatre femmes, quatre anonymes, sans visage, qui sont la voix de toutes les femmes, illustres ou inconnues, à découvrir dans les archives de pierre ou de papier. Et donc ce sera le vendredi 8 mars à 18h aux archives départementales. Ça s'appelle Fragments d'elle, extrait de vie de femmes basalpines. Et l'entrée est libre, comme d'habitude, et vraiment tout le monde est invité à venir écouter ces extraits d'archives. Voilà, et puis, alors là, on y reviendra plus longuement avec Monsieur Labadie, je pense, à la prochaine émission de Fréquence Mistral. Nous inaugurons le 10 avril notre exposition sur l'affaire de l'URSS, 4 août 1952, le triple meurtre de la famille Drummond qui a mis en cause la famille Dominici. Et donc là, je redis, hein, il ne s'agit pas pour nous de refaire le procès. De toute façon, le dossier judiciaire n'est toujours pas communicable aujourd'hui. Voilà, le dossier n'est toujours pas communicable, sauf évidemment sur dérogation, hein, puisqu'il y a évidemment des journalistes et des historiens qui ont consulté ce dossier. Mais il nous s'agit pour nous vraiment de parler du traitement médiatique et judiciaire de l'affaire. Et puis surtout, on a...
Et de l'impact sur la région.
De l'impact sur la population, la région, parce que ça a été vraiment une déflagration, hein, quand même. Hein. Et ça nous donne l'occasion de... On est en train de reconstituer la salle d'audience du tribunal, puisque nous avons les meubles, et que notre salle d'exposition fait quasiment la même taille que la salle d'audience du tribunal.
De l'ancien tribunal.
Mais ceci dit, la salle d'audience fait toujours la même taille, hein, je crois. Ils ont refait le tribunal, mais la salle d'audience a conservé le même volume.
Mais c'est plus pas du récollet.
Comment ?
Ce n'est plus là-bas, passe directement.
Non, 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 tout à fait. Voilà, donc voilà pour les petites actualités. Puis, je ne sais pas, on n'a pas laissé Louis parler, qui se transforme, qui blêmit. Mais non, parce que j'aimerais bien avoir son avis, puisque là, il est en train de découvrir les métiers des archives depuis une semaine. Alors, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il pense, parce qu'il n'a pas fini de son travail et des métiers qu'il a pu découvrir ?
Alors de mon point de vue, je trouve qu'une semaine, c'est relativement court, même si j'ai eu l'occasion de voir de nombreuses personnes, nombreux agents des archives avec différents métiers et spécialités. Certains sont très intéressants, d'autres, je pense que je ne les ai pas vus assez pour pouvoir vraiment juger. Le travail qu'actuellement j'ai fait le plus et qui est à ma foi très intéressant, c'était le tri que j'ai dû faire sur un dossier. Qui est certes long, mais au final, c'est, je trouve, très satisfaisant d'avoir terminé, même s'il nous reste encore, je pense, la classification à faire. Et pour le reste, il nous reste encore 2 jours de stage, et j'espère encore en apprendre beaucoup de nombreuses personnes. Et sinon, c'est vraiment un milieu que je connaissais très peu, surtout qu'on ne nous l'apprend pas dans l'université. Et je regrette vraiment pas d'avoir choisi ce stage, car au final, il m'ouvre de nouvelles idées pour un futur.
Dans les archives ou dans l'histoire ?
Alors, dans l'histoire, c'était sûr que je voulais me tourner vers là. Après, les archives, comme je vous dis, si j'avais pas choisi d'aller là-bas, j'aurais continué à spéculer sur le métier d'archiviste. Et donc, l'avoir vu de plus près, ça donne des idées d'avenir et aussi, comment je peux dire ça ? D'études.
Très bien. Ben voilà, donc je sais qu'il ne s'est pas trop ennuyé, ça va. En fait, on a classé on a reçu en don un fonds alors qui représentait 4 mètres linéaires des rencontres cinématographiques de Manosque, voilà, qui se sont arrêtées en 2017, c'était la dernière édition. Donc comme ils ont clos en fait leur travail, ils nous ont donné leurs archives. Alors on a fait beaucoup de tri à l'intérieur, c'est beaucoup de documentation. On a vraiment conservé ce qui permettait de comprendre leur choix de programmation, les échanges qu'ils avaient eus avec les réalisateurs, les distributeurs, les quelques éléments financiers qu'on a pu avoir. Et puis évidemment leurs programmes, leurs affiches. Et donc ça fait 30 ans de programmation cinéma à Manosque. Et ma foi, il y avait un sacré travail qui avait été fait à travers ce festival, parce qu'il y a vraiment eu énormément de films de tous horizons et de réalisateurs invités.
Oui, d'intervenants.
Ah oui, 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 c'était vraiment impressionnant. C'est vrai que moi, je suis arrivée dans le département, c'était quasiment la fin, donc je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais c'est ça qui est intéressant dans les archives, c'est qu'en fait, c'est jamais qu'une part de la réalité, on est bien d'accord, mais on peut sentir, qu'est-ce que... Quelle était leur ligne directrice, quelle était leur vision du cinéma, en fait, parce que c'est quand même un certain cinéma, beaucoup, beaucoup un cinéma international, beaucoup de petits pays représentés à travers leur programmation, et finalement très différent de ce que nous propose un cinéma classique dans une programmation hebdomadaire. Donc c'est la joie des archives de pouvoir garder cette trace-là de ce travail. Voilà pour une histoire d'archives du mois de février.
Et nous nous retrouverons exactement le même jour, mais dans un mois, le 21 mars.
Tout à fait.
Troisième jeudi du mois.
Et ce sera le printemps, et ce sera sans doute M. Labadie qui viendra pour parler plus en détail
de l'affaire.
D'une exposition sur l'affaire de l'URSS.
Merci Laure, merci Louis.
Merci Jean-Marc.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.